journal Mireille Boucata. L'Assemblée nationale dit avoir exécuté les arrêts de la Cour suprême de justice par respect de la Constitution malgré les irrégularités constatées. Dans ce journal, la réaction de la Haute Cour qui insiste sur l'indépendance de la magistrature. Début du procès Iskawa Bounia par la Cour militaire de Kisangani, la défense du leader du PUSIC a sollicité notamment la mise en liberté provisoire du prévenu, proposition rejetée par la Cour qui estime que les faits lui reprochés sont graves pour mériter cette faveur. Près de 500 millions de dollars pour la construction d'un hôtel moderne et d'autres immeubles à Kinshasa. Un protocole d'accord a été signé dans ce sens entre le ministre d'État en charge des infrastructures et l'entreprise Rakim des Émirats Arabes Unis. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Assemblée nationale a clôturé sa session extraordinaire mercredi soir. Parmi les questions réglées figure celle des 18 députés invalidés par la Cour suprême de justice. Ces derniers ont été remplacés. Cependant, l'Assemblée nationale dit avoir exécuté les arrêts de la Cour suprême de justice par respect de la Constitution, cela malgré certaines irrégularités constatées. Le président de cette chambre appelle à la réforme de la justice congolaise. Vital Kamerhe.
On ne doit pas changer le nom des gens. Mal écrit le nom des gens en disant que parce qu'il s'agit des arrêts de la Cour suprême de justice, on ne peut plus corriger. Comme nous ne pouvons pas le faire, nous demandons à la Cour suprême de justice de le faire. Donc nous invitons le président à prendre ses responsabilités en tant que garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions, de nous inviter autour de lui pour qu'ensemble nous voyons quel type de réformes nous devons opérer pour la justice de notre pays.
N'est-ce pas aussi une occasion pour l'Assemblée nationale d'accélérer l'adoption des lois en rapport avec la justice?
Il n'y a pas d'occasion pour accélérer ou décélérer quoi que ce soit. Nous avons notre programme, nous allons le respecter. La loi portant Conseil supérieur de la magistrature est programmée pour le mois de septembre, tout comme la loi sur la décentralisation. Ce sont des lois qui constituent la cheville ouvrière de notre démocratie. Nous devons prendre les précautions qui s'imposent pour que ces lois traduisent au maximum les principes qui sont affirmés dans la Constitution.
Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, interrogé par Georges Kamoudjova. Vous allez le suivre tout à l'heure à 8h30 sur les antennes de Radio Kapi. Réagissant aux propos du président de l'Assemblée nationale, la Cour suprême de justice affirme que ces arrêts sont exécutoires, opposables à tous et ne font appel à aucun recours. Dans une déclaration lue par son président à la presse, les magistrats de la Cour et du parquet général de la République déplorent les propos qu'ils qualifient de discourtois de la part des députés nationaux qui remettent en cause l'indépendance de la magistrature. Quelques points saillants de cette déclaration par le président de la Haute Cour, le magistrat Kalonda Keleoma, au micro de Jeff Ngoy.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle, entendez la Cour suprême de justice, ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, les magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République constatent avec regret et indignation ce qui suit. L'Assemblée nationale s'est érigée en tribunal d'exception, a censuré les arrêts de la Cour suprême de justice, a vilipendé et jugé les magistrats de la Cour suprême et a finalement pris la résolution de constituer une commission interinstitutionnelle pour notamment sanctionner les magistrats de la Cour suprême de justice. Il déplore des propos discourtois proférés à l'endroit des membres d'une autre institution qui le relève que l'indépendance du pouvoir judiciaire soit remise en cause.
La Cour suprême de justice a en outre ajouté qu'elle compte travailler avec d'autres institutions de la RDC en vue de bâtir un état de droit. La Voix des Sans-Voix déplore le mauvais traitement infligé aux ressortissants congolais expulsés de l'Angola. Elle exige le départ de l'ambassadeur de l'Angola en RDC. Cette ONG de défense des droits de l'homme a fait ses revendications hier jeudi à travers les sit-ins devant le Palais du Peuple et l'ambassade d'Angola en RDC. Dans un mémo déposé à cette occasion au président de l'Assemblée nationale et à l'ambassadeur de la République d'Angola, l'ONG reproche aux diplomates angolais son silence face aux exactions commises sur les expulsés. La VSV exige en outre l'implication du Parlement congolais. Le résumé de ses revendications avec Floribert Chebeya, président de la Voix des Sans-Voix.
La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme a mobilisé ses 24 sections dans les 24 communes de Kinshasa pour protester contre la mollesse, la passivité du gouvernement de la République démocratique du Congo face aux expulsions massives et barbares de milliers de Congolais de l'Angola. Nous avons prévu également, après le sit-in au Palais du Peuple, d'aller également faire un autre sit-in aujourd'hui même à l'ambassade d'Angola pour exprimer toutes nos préoccupations pour qu'on puisse arrêter dans l'immédiat les expulsions massives et barbares des Congolais et surtout arrêter les mauvais traitements. Parce qu'il importe de respecter les engagements internationaux de l'Angola en matière des droits humains.
Vous réclamez le départ de Joao, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans?
Pour la banalisation des mauvais traitements, la banalisation réitérée des mauvais traitements infligés aux Congolais. Donc un ambassadeur devait s'astreindre aux droits de réserve et ne pas humilier les Congolais dans leur propre pays.
L'ambassadeur angolais en RDC réagit. Seul le président Dos Santos a le pouvoir de me révoquer, déclare Joao Baptista Maoete. Quant au mauvais traitement des Congolais, le diplomate justifie l'intervention de son pays dans ses expulsions par le fait que l'Angola s'est retrouvée face à des bandes armées constituées pour défendre des territoires qu'ils occupent illégalement. Joao Baptista Maoete.
Parler d'un traitement inhumain, vous ne savez pas ce que c'est. Lorsque vous êtes en face des bandes armées, avec des armes de guerre étrangers qui veulent défier vous qui êtes souverain, qui veulent défier les institutions, vous allez les recevoir avec des fleurs roses. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces éléments-là se sont constitués en groupes mafieux pour défendre leur zone occupée illégalement et où ils exploitent les diamants et impunément. Toutes les mesures sont prises pour que humanitairement, au moins, ceux qui n'offrent pas de résistance armée, étant dans un pays d'autrui, étant dans une position illégale, puissent rentrer en force. Mais la majorité pacifique rentre pacifiquement.
Des propos recueillis par Adia Chipoukou. Début hier jeudi à Bunia, des audiences du procès d'Yves Kawapanga Mandro à la cour militaire de Kisangani, qui siège en chambre foraine. L'audience d'hier était marquée par l'examen d'un mémoire unique introduit par la défense du leader de l'ex-groupe armé PUSIC, parti pour l'unité, la sauvegarde et l'intégrité du Congo. Dans ce document, la défense sollicite notamment la mise en liberté provisoire du prévenu Kawa et la poursuite des audiences à huis clos. Jean-Claude Bissiliabo revient sur ce procès.
Dans ce mémoire unique, la défense soulève la nécessité de voir ce procès se dérouler à huis clos au regard des positions qu'occupent certains témoins de leurs clients au sommet de l'État. Elle demande la mise en liberté provisoire et l'annulation de certaines charges, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel et importation d'armes de guerre qui devraient être concernées par la décision d'amnistie signée par les chefs de l'État en 2003 en faveur de tous les seigneurs de guerre. Après près de 2 heures de confrontation entre la défense et les ministères publics sur ces mémoires uniques, la cour s'est retirée pendant 3 heures pour son examen. À la fin, la demande de la mise en liberté provisoire a été rejetée. La cour estime que les faits reprochés à Yves Kawa sont trop graves pour mériter cette faveur. La cour s'est également opposée à identifier certaines accusations à sa charge aux faits prévus dans la décision d'amnistie du chef de l'État. Quant au déroulement des audiences à huis clos, la cour promet de se prononcer ce vendredi. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
Au sud Kivu, la société civile de Shabunda dénonce des cas de tracasserie des militaires basés à Nzibira, en territoire de Walungu. Ces tracasseries entravent la circulation des biens vers Kigulube, localité du territoire de Shabunda, située à plus de 170 km à l'ouest de Bukavu. Ainsi, la localité se trouve enclavée malgré la route en réhabilitation. Selon les témoignages, les militaires de la 11e brigade basée à Nzibira empêchent les transporteurs de s'engager sur la route, les accusant souvent d'aller ravitailler les éléments FDLR basé dans la région. Suivons plutôt ce témoignage du président de l'association des assistants facilitateurs communautaires volontaires basée à Kigulubi.
La route est maintenant praticable parce que certains véhicules des ONG comme Malteser et GTZ roulent jusque-là. Il y a aussi le véhicule d'un commerçant, une camionnette de haute statue 2200, qui a dernièrement atteint le point, mais quand il est revenu, il a été fortement tracassé. Nous ne comprenons pas pourquoi les autorités ne veulent pas laisser passer le véhicule jusqu'à Lubimbe. Nous avions fermement espéré que c'était une grâce pour la population, comme la route était déjà praticable jusqu'à ce niveau-là, mais jusque-là, aucun véhicule n'est autorisé à passer. Notre souhait, c'est de demander aux autorités pourquoi ils ne veulent pas faciliter l'accès aux véhicules transportant les biens de première nécessité jusqu'à ce point-là pour que nous puissions aussi respirer l'air de la modernité.
Le gouvernement congolais veut mettre en valeur ces terrains. Il veut commencer par la construction d'un hôtel et des immeubles à Kinshasa. Un protocole d'accord a été signé dans ce sens hier jeudi entre le ministre d'État en charge des travaux publics et infrastructures et l'entreprise Rakine des Émirats Arabes Unis. Tater Mahassad, président de Rakine, apporte plus de détails sur les travaux qui sont entrepris. Il est au micro de Babel Pongo.
Nous avons trois projets immédiatement. On veut construire un hôtel 5 étoiles de 300 chambres, un shopping mall d'un standard international. Et nous allons aussi faire deux tours, une tour de logement puis une tour pour des bureaux. On finirait tout le projet dans 3 ans et on va commencer les travaux civils d'ici 6 mois. Mais on va commencer immédiatement les travaux d'ingénierie et tout ce qu'il faut comme préparation technique. Nous sommes en train de parler d'à peu près 500 millions de dollars.
Le ministre Pierre Numbi des Travaux publics souhaite que ce partenariat s'étende aussi dans toutes les provinces. Il estime que cela mettra fin à la spoliation des terrains de l'État. 3300 containers sont entreposés au port international de Matadi dans le Bas-Congo. C'est là après une semaine d'arrêt de travail observé par les agents des régies financières. Cette situation risque de constituer un blocage pour la réception d'autres containers, déclare le directeur technique de l'Office national de transport. Dani Kindanzita nous fait le point.
Un grand mouvement de personnes et engins qui opèrent au port international est observé tous les matins depuis la reprise du travail dans le régime financier et c'est après une semaine d'arrêt de travail. Selon Médard Ntimbantiama, directeur technique du département des ports maritimes, 3300 containers attendent l'instruction des dossiers avec risque d'engorger le port international de Matadi. Ces derniers demandent aux agences en douane d'accélérer les démarches au niveau de leurs services pour que le port international ne puisse connaître un problème de manque d'espace. À Boma, le président de l'Union des déclarants en douane de cette ville, Norbert Pobapoba, qui a été joint au téléphone, a indiqué que plusieurs personnes ont commencé à récupérer leurs marchandises bloquées au port, quand bien même toutes les procédures douanières étaient terminées. Matadi, Danikin Danzita, Radio Okapi.
Toutes les entreprises minières du Katanga doivent cultiver chacune un champ de maïs d'environ 500 hectares. C'est la décision prise mercredi dernier par le gouvernement provincial du Katanga. Objectif, combattre la malnutrition qui sévit dans cette province. Selon le gouvernement provincial, d'ici le début de la campagne agricole 2007-2008, ces entreprises devraient déjà être à l'œuvre. Les opérateurs miniers ont accueilli favorablement cette initiative. Paul Amunanga.
Le ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural a réuni ce mercredi les opérateurs miniers du Katanga. Juvenal Kitungwa Lugoma leur a annoncé que la province du Katanga s'est trouvée dans une situation d'insécurité alimentaire absolue. Sur 1 280 000 tonnes de maïs qui devraient être consommées normalement chaque mois par la population du Katanga, il n'y a qu'environ 500 000 tonnes qui sont disponibles. Il y a un déficit de 50% dans la production du maïs, a-t-il ajouté. Et pour combler ce déficit, le Katanga est obligé de recourir aux importations.
Pour combler ces déficits, souvent on recourt aux importations. Alors pour essayer de parer à cette difficulté, nous considérons que la sécurité alimentaire doit passer avant tout par une production au niveau intérieur de la province.
Les opérateurs miniers affirment avoir accueilli favorablement cette initiative. Ils précisent en revanche que la mise en application de cette initiative exige quelques préalables. Félicien Yambachibangu, président de la Fédération des entreprises du Congo, ville de Lubumbashi.
À l'issue de la réunion, il a été prévu qu'on fasse ces commissions, mais d'abord, nous avons eu l'information, nous allons l'étudier et puis nous allons donner des réponses concrètes au moment opportun.
D'après le gouvernement provincial du Katanga, l'exécution de ces projets est obligatoire. Selon les codes miniers, les entreprises minières doivent s'investir dans le secteur social et de développement des populations locales. Lubumbashi, Pone Munanga, Radio Okapi.
2 décès, 2 accouchements prématurés, 2 cas de fractures, mais aussi des cas de diarrhée ensanglantée signalés. Ce sont là les conséquences du bateau Lukamba qui a échoué depuis le 20 juin dernier. Ce navire est bloqué depuis dans une bande de sable à la hauteur de la cité de Panou, sur la rivière Kasai, à 200 km de la ville de Bandundu. Il provenait de Ilebo, dans le Kasai occidental. Un reportage de Fabien Kambinzi, rendu par Lievin Bwinga. Avec environ 80 militaires à bord ainsi que leurs familles et des centaines de civils, tous ces passagers se trouvent en situation de détresse depuis plusieurs semaines en pleine rivière Kassai au Bandundu. Ils n'ont ni eau potable, ni nourriture, ni médicaments. C'est depuis près d'un mois que ces sinistrés attendent du secours, mais aucune aide ne leur est parvenue. Selon la section des affaires humanitaires de la MONUC Bandundu, qui confirme cette information, des contacts ont été pris avec les responsables de l'Office national de transport ainsi qu'avec deux passagers militaires de ce bateau qui ont réussi à rejoindre Bandundu par leurs propres moyens. Ces contacts ont permis à la section des affaires humanitaires de rassembler des données nécessaires à une intervention de l'unité fluviale de la MONUC dont le bateau est arrivé à Bandundu. Selon le colonel Khalif Diop, le capitaine de la force navale de la MONUC, les pourparlers sont en cours avec les autorités provinciales pour secourir ces nombreux passagers du bateau.